À bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent.
Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique.
La matinale décoloniale, une émission critique de la France-Afrique. Sur Radio Campus Grenoble.
90.8.
Y'en a marre,
c'est du racisme.
Y'en a marre,
raciste étant.
Y'en a marre,
les lois racistes.
Y'en a marre,
les lois fascistes.
Y'en a marre.
Chaque mois, de l'actu,
de l'histoire,
des actions,
des luttes
et du bon son.
France, dégage.
Occupation Mali, coup d'État au Tchad.
France, dégage.
Déguisement du France CFA, fausse coopération.
France, dégage.
Soutien aux dictatures, massacre et pillage.
France, dégage.
Dégage.
La matinale décoloniale
sur Campus Grenoble 90.8,
un vendredi par mois de 11h à midi.
Pour en finir avec l'Empire et toutes les colonies.
Bonjour.
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 Bonjour. Eh bien, bienvenue pour cette rentrée dans la matinale décoloniale. L'émission d'aujourd'hui sera sur le racisme en France après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 80-90. Et pour commencer, on voulait dire un mot pour nous situer. Nous parlons dans cette émission en tant que blancs et blanches. Il nous paraît important de le souligner sur la thématique du racisme, car nous parlons de situations concrètes, de domination et de violence que nous ne subissons pas. Et il nous paraît important que les Blanches se mobilisent pour lutter contre le racisme. Frantz Fanon, qui est une figure de l'anticolonialisme, quand il décrit le colonialisme, parle de double aliénation. Celle du colonisé et celle du colon. Ces aliénations ne sont pas comparables par leur violence. Le colonisé est infériorisé et déshumanisé par le colon. Mais le colon, lui, est aliéné dans son complexe de supériorité, dans sa haine des autres, dans sa peur. Il se coupe de son humanité dans son incapacité à l'empathie vis-à-vis de ses autres qu'il considère comme inférieurs. Aimé Césaire, une autre figure anticoloniale, analyse que les violences extrêmes de la colonisation commises et justifiées par les colons les décivilisent. Pour continuer sur ce qu'ont analysé Fanon et Césaire, l'histoire coloniale européenne et française en particulier a modifié durablement les relations que les Blanches, nous ici, pouvons entretenir avec les personnes des anciennes ou encore actuelles colonies et par extension à toute personne non blanche. Aussi, en tant que Blanche, le racisme nous amène des privilèges. Par exemple, la police va moins nous contrôler et moins nous violenter. Nous avons plus de chances de trouver un logement et un emploi à conditions égales avec des personnes racisées. Nous allons être plus facilement respectés, écoutés, etc. parce que la couleur blanche de la peau est considérée comme la norme, ce qui classe les blancs et les blanches au-dessus des personnes racisées. Pour combattre ces situations injustes de domination, pour combattre l'éducation raciste que nous avons reçue, et pour regagner de notre humanité en nous considérant à égalité avec tous les peuples colonisés, il est nécessaire, en tant que blancs et blanches, de lutter activement contre le racisme depuis notre place. On trouve important de montrer à quel point le racisme en France aujourd'hui est une continuité de l'histoire coloniale ancrée dans les institutions françaises et donc dans nos cerveaux.
Merci. Alors du coup, je vais commencer par faire un petit rappel. Au mois de mai, on avait déjà fait une émission sur le thème du racisme, intitulée « Racisme biologique et colonisation ». J'en refais un petit résumé pour qu'on ait bien en tête ces éléments pour l'émission d'aujourd'hui, pour se situer par rapport à ça. Parce qu'on va donc poursuivre cette explication. Donc, au siècle des Lumières, les idéaux universalistes se sont construits et se sont propagés pour mettre en avant l'égalité des êtres humains et leur besoin de liberté. Sauf qu'on était à la période de l'esclavage et de la traite négrière, et que les idéaux des Lumières s'arrêtaient pour la plupart des penseurs aux limites de l'homme blanc. Montesquieu et Voltaire, par exemple, ont trouvé d'excellentes justifications pour que leurs idéaux ne s'appliquent pas aux autres couleurs de peau. Dès le XVIIe siècle, le code noir qui avait été mis en place par Colbert était venu définir et réglementer les liens entre esclaves et propriétaires, et donc inscrire dans le droit le fait qu'un esclave était un bien meuble, c'est-à-dire l'équivalent d'un objet. Et cette différenciation dans les textes de loi s'est poursuivie au XIXe siècle, où certes l'esclavage a fini par être aboli, mais pour laisser place au code de l'indigénat, qui a dicté des règles différentes encore pour les peuples colonisés et colonisateurs. D'autant qu'à cette époque, le scientisme bat son plein. On mesure, on pèse, on trie, on classe. Tout cela pour hiérarchiser les prétendues races humaines, le blanc étant bien sûr au sommet de l'échelle. Parce qu'avec cette hiérarchisation, on va pouvoir justifier l'extension sans fin de l'Empire français. Tout au long du 19e, avec au fur et à mesure, une nouvelle justification plus noble qui va apparaître que juste faire des affaires ou du business, il s'agit maintenant d'apporter la civilisation aux peuples inférieurs. Coloniser des peuples devient un devoir moral, religieux aussi parfois. On a vu que Victor Hugo, par exemple, a eu des discours qui collaient complètement à cet état d'esprit. Et ce travail prétendument scientifique de classement des humains va se poursuivre, début 20e, la grande époque des expositions coloniales, et ça trouvera son paroxysme avec l'avènement des thèses nazies, qui aboutiront à l'extermination de millions de personnes en raison de leur appartenance à une supposée race inférieure. Donc pour l'émission d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la période d'après-guerre, pour voir comment cette notion de racisme a évolué, mais perduré, à la fois dans une vision théorique, générale, mais aussi par des exemples plus concrets, comme le maintien de l'ordre policier, les enfants de la Creuse ou le scandale du chlordécone. Maintenant, on vous propose d'écouter la chanson Strange Fruit par Billie Holiday. C'est l'un des morceaux les plus emblématiques de la lutte contre le racisme aux États-Unis. Elle a été interprétée pour la première fois par la chanteuse en 1939. Cette chanson est née d'un poème écrit en 1937 par Abel Meeropol, qui était profondément choqué par une photographie de lynchage. Et donc dans le texte, il compare les corps pendus des Afro-Américains aux fruits étranges, c'est le titre de la chanson, qui sont suspendus aux branches des arbres. Et lorsque Billie Holiday, en a pris connaissance, elle a décidé de l'intégrer à son répertoire. Et donc Strange Fruit est rapidement devenu un symbole de la résistance artistique contre l'oppression raciale et a inspiré de nombreux autres artistes et militants pour les droits civiques. La chanson a souvent été reprise, comme Nina Simone dans les années 60, qui, à l'instar de Billie Holiday, a fait de cette chanson un cri de protestation et de solidarité.
For the tree to drop. strange and bitter crop.
On est bien sur Campus Grenoble et on va parler maintenant du glissement en fait d'un racisme biologique à un racisme culturel.
Du coup, après la Seconde Guerre mondiale, l'Occident est sous le choc face à la mise en évidence macabre de l'extermination en masse des Juifs, des Tziganes et des Slaves, considérés comme des races inférieures par le nazisme. Il devient à ce moment malvenu pour les suprémacistes blancs de parler de race. Alors les suprémacistes blancs, ce sont ceux qui pensent que les blancs sont supérieurs aux autres humains et qui, eux, n'ont malheureusement pas disparu avec le nazisme. Alors avant d'aller plus loin, on voudrait parler de deux choses. Déjà, pour citer Du Bois, ou connu comme Dubois en français, un sociologue afro-américain qui écrit en 1946
« Il n'est aucune atrocité nazie, camp de concentration, mutilation et massacre de masse, dégradation des femmes ou crimes épouvantables contre l'enfance, que la civilisation chrétienne de l'Europe n'ait déjà pratiqué depuis longtemps contre les gens de couleur dans toutes les régions du monde au nom et en défense d'une race supérieure vouée de naissance à gouverner la planète. »
Alors pour peut-être simplifier, il dit juste que tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale a déjà eu lieu partout dans le monde lié à la colonisation. Et en effet, depuis 1492 et la fameuse « découverte » entre plein de guillemets des Amériques par Christophe Colomb, les génocides des peuples colonisés ont été nombreux. L'expression « découverte des Amériques » va avec tout l'imaginaire colonial de l'explorateur qui arrive en terre inconnue et vierge. Et les Amériques étaient certes inconnues par les Européens et les Européennes, mais elles étaient peuplées d'environ 60 millions de personnes d'après les dernières estimations. Et donc ni elles étaient inconnues pour les gens y vivant déjà, et ni elles étaient vierges. Et en 1600, c'est-à-dire environ 100 ans après l'arrivée de Colomb, 90% des indigènes étaient morts. Ça fait plus de 50 millions d'indigènes qui ont été décimés, alors pas seulement par les maladies, on a tendance à leur attribuer un rôle prépondérant, mais par le travail forcé, les conditions de vie désastreuses liées à l'arrivée des colons, le vol des terres et les massacres perpétrés par les colons. Le génocide amérindien continuera aux États-Unis et au Canada jusque dans les années 1900. Et les Espagnols et les Portugais en Amérique du Sud ont imposé un régime colonial qui était fait d'extractivisme, de monoculture et d'esclavagisme. Ce régime colonial, il a eu pour but de tirer d'énormes profits de la production de champs de canne à sucre, mais aussi de l'exploitation forestière et minière par une main-d'œuvre esclave. Il a contribué à enrichir les États européens, ce qui les a amenés vers un capitalisme toujours plus enclin à briser les corps et à engloutir les terres, d'autant plus que les corps étaient non blancs et que les terres étaient lointaines. Et ça, pour toujours plus de profit. C'est pour ça qu'on peut dire que le capitalisme est colonial. Son existence est liée à la colonisation de terres et à leur exploitation par le travail forcé des indigènes ou par l'esclavage des Africains et Africaines. Ce modèle colonial et capitaliste à grande échelle de l'Amérique du Sud s'est étendu en Amérique du Nord, puis dans toutes les nouvelles colonies. De manière générale, les pays colonisés ont vu leur population baisser drastiquement après l'arrivée des colons, pour les mêmes raisons que les Amérindiens, mauvais traitements, travaux forcés, maladies et massacres de masse. C'est pour ça qu'on peut dire que le génocide perpétré par les nazis n'est qu'une suite tragiquement logique de l'histoire coloniale européenne. Pour prendre l'exemple de l'Allemagne, justement. Entre 1904 et 1907, l'Allemagne organise une mise à mort de masse en Namibie, qui était à ce moment-là une colonie allemande. Et 80% des Hereros et 50% des Namas, qui sont deux peuples de Namibie, ont été exterminés. La guerre menée par l'Allemagne en Namibie a été qualifiée de raciale et génocidaire par beaucoup d'historiens. Et la deuxième chose qu'il faut souligner par rapport au génocide fait par les nazis, c'est que Hitler, en particulier, et d'autres dignitaires nazis étaient admiratifs des États-Unis, en partie pour leur puissance industrielle que le Reich voulait égaler, mais les nazis admiraient également les États-Unis pour son régime racial. Depuis les années 1880 aux États-Unis, un ensemble de lois raciales appelées lois Jim Crow réglementait dans les États du Sud la ségrégation spatiale des Noirs et autres humiliations juridiques. Ces lois vont durer jusqu'en 1964. Ce régime racial a inspiré directement les rédacteurs des lois de Nuremberg en 1935. Ce sont les lois qui devaient protéger le sang et l'honneur allemand et qui interdisaient, entre autres, les unions entre juifs et non-juifs. Naomi Klein, dans son livre Le Double, écrit
« Le « jamais plus » crié après la guerre avait un revers implicite, jamais avant. L'insistance à vouloir sortir l'Holocauste de l'incapacité à reconnaître les schémas l'Holocauste de l'histoire, pardon, l'incapacité à reconnaître les schémas qu'ils avaient reproduits et le refus de voir la place qu'occupent les nazis dans la sphère des génocides coloniaux ont coûté très cher. Les pays vainqueurs n'ont jamais eu à répondre du fait qu'Hitler avait trouvé dans leur histoire de quoi penser la racialisation des peuples et le confinement concentrationnaire, laissant leur innocence non seulement intacte, mais aussi considérablement renforcée par ce qui était en effet une victoire légitime. »
Voilà, les Occidentaux vainqueurs ont donc pu se laver les mains de leur racisme. C'était les nazis les monstres, et non le colonialisme européen et états-unien. Et pour revenir au départ, on ne pouvait plus parler de race biologique, ça rappelait trop les nazis. Mais le racisme n'avait pas disparu. Les suprémacistes blancs ont donc trouvé d'autres manières pour prouver qu'ils étaient supérieurs.
Alors si de nos jours, les tenants d'un racisme purement biologique sont disqualifiés, si les fondements scientifiques de la notion de race humaine ont perdu toute valeur et vérité, la racialisation, c'est-à-dire le processus par lequel des personnes sont assignées et reconnues comme appartenant à une catégorie raciale, reste pleinement opérant. Cette construction sociale permet donc de faire perdurer l'infériorisation, le mépris et les discriminations à l'égard des personnes racisées. Ce phénomène, à l'œuvre au sein de notre société, impose un continuum colonial dans nos rapports avec les pays anciennement colonisés par la France, mais également avec leurs descendants français ou non, qui vivent en France. Mais alors finalement, comment se transmet ce prisme colonial au travers duquel sont appréhendées les sociétés et les populations anciennement colonisées par la France à des individus n'ayant eux-mêmes pas connu la période coloniale? Alors comme nous l'évoquions avec France Fanon au sujet de la double aliénation, si les peuples colonisés ont transmis aux générations suivantes les traumatismes de la colonisation, alors il est clair que la France d'aujourd'hui, dans ses expressions politiques, économiques, militaires et culturelles, entretient le mythe d'une supériorité civilisationnelle. Cette allégation de supériorité tente notamment de survivre par la défense acharnée de l'idée de grandeur de la France. Ce sentiment né des conquêtes et de l'Empire est encore bien présent, en lame de fond, remobilisé à souhait dans les discours d'orientation politique. Du point de vue de la géopolitique internationale, la France n'est puissante, même si elle ne l'est en fait de façon que de plus en plus relative, que parce qu'elle a eu un empire colonial. Son rang à l'ONU, ses limites géographiques qui dépassent les frontières de l'Hexagone, sa présence militaire dans des lieux stratégiques, son accès privilégié aux ressources naturelles hors de son territoire. Elle ne peut se passer de ses anciennes colonies si elle veut garder son rang de grande puissance mondiale. À l'intérieur du pays, cette passion arrogante pour la grandeur s'exprime de différentes manières, dans les arts et la culture, dans la conscience et la représentation d'une identité française rayonnante de l'aura des droits de l'homme, dans l'enseignement de notre histoire qui conduit à un roman national partiel, incapable de faire face aux vérités historiques les plus insupportables. Les médias sont aujourd'hui un outil puissant de diffusion de vocables liés à la civilisation, à la grandeur, à la supériorité. Ce lexique, qui est au cœur des obsessions de l'extrême droite, abonde et infuse dans la société avec une conséquence inconsciente évidente, celle de favoriser un racisme culturel. Prenons en exemple le terme d'ensauvagement, qui est repris ça et là par la sphère médiatique et par certains représentants politiques. Ce terme fait référence à la figure du sauvage, désignant à la base les natifs amérindiens que l'Europe rencontre et décrit au XVe siècle avec curiosité et condescendance. Puis le bon sauvage, figure mythique de l'homme ayant conservé son caractère primitif, naïf et proche de la nature, éloigné des raffinements des sociétés occidentales. Un individu qui, n'ayant pas appris à brider ses instincts premiers, est enclin à commettre des actes de sauvagerie, de barbarie, intrinsèques donc aux sociétés et cultures éloignées de la civilisation. Cet imaginaire qui est ancré fort dans les consciences vient de nos jours encore corrompre notre rapport à l'altérité. Et pourtant, dès 1950, dans son célèbre discours, dans son célèbre discours sur le colonialisme, Aimé Césaire avait déjà renversé le stigmate et l'accusation de sauvagerie.
Je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent.
Si je shoot un bleu, tout ça va sûrement finir en émeute. Les publics rentreront chez eux en se disant on est neutre. Tout ça m'émeut, mais j'ai choisi de partir sans faire le haineux. Car on ne coupe pas la ficelle tant qu'on peut défaire les nœuds. Mesdames, messieurs les théâtreux, spectatrices et spectateurs, ce sera jamais nous contre eux. Les mauvaises herbes sont des fleurs, on n'a pas besoin de thérapeute. Un comédie club dans le cœur, si on écrivait la N2, ce serait la cité de la peur. Nos vies des films d'horreur quand on les regarde en gros plan. En dézoomant des films d'amour et des bromances, j'ai vu mon reflet dans leurs insignes. J'ai su que le vilain petit canard était un signe. C'est nous la France périphérique, toujours au centre du débat. On rend le pays féerique avec les centres de Demba. Quand on fait la une de l'équipe, on est des fiertés nationales. Mais dans les contrôles de routine, on est des ramasseurs de balles. Mais tu veux savoir c'est quoi le comble? C'est que ce soir on fait ça le comble. Mais que demain, face aux gendarmes, ça peut vite tourner au drame. Parce que quand un Français est con, on dit que c'est un sale con. Mais quand un Arabe joue au con, on dit que c'est un sale Arabe. Et lorsqu'un flic tue un noir, les racistes appellent ça du sport. Et quand un noir pousse un keuf, ils parlent tous d'animal féroce, d'indigène, antéenne Lacoste. Qui volent aux Français leur travail. La violence a plusieurs visages, celle d'un flingue ou celle d'une cravate. Frère, faut qu'on tempère. Tourner le dos à l'ouragan ne nous sauvera pas de la tempête. Tant qu'on ne videra pas nos placards de nos squelettes. Tant qu'au lieu de mener des enquêtes, on partira mener des quêtes. Je prendrai pas de pincettes, encore moins de pense-bêtes. On ne guérit pas du Tiex, même sous opération place nette. Tant qu'on ne renversera pas la pyramide, tant qu'on ne regarde la banlieue que par la lucarne des vrilles, tant qu'ils enjamberont les corps avec des dossiers sous le bras, tant qu'on aura des nœuds au ventre quand on voit l'origine du coupable, tant qu'on étalera le casier d'un cadavre encore chaud, tant qu'on n'arrêtera pas de voir comme un spectacle les talk shows, tant qu'il y aura des mères qui ferment le couvercle du cercueil, tant qu'il y aura des pères en deuil qui perdent un œil dans les immeubles à cause d'un tireur, d'un bon tireur sur un ancien tirailleur, un militaire devenu ferrailleur, devenu de la chair à bailleur. Tant qu'ils s'en prendront au raisonneur, avant de s'en prendre au raisonnement, on n'ouvre pas la porte du vivre ensemble avec une clé d'étranglement. On n'est pas le pays des lumières avec un taser électrique et cassé du fonctionnaire. Et ben ça n'a rien d'érectile. On perd le nord, on perd le fil. On crée pas de lien, on racialise. On se voit plus qu'en noir et blanc, comme dans le film de Kassovitz. On nage en pleine cassosserie. Comment expliquer aux kids que la patte patrouille dans la vraie vie tire sur la carrosserie? C'est l'histoire d'une société qui chute à l'horizontale, l'important c'est le parachute, quel que soit l'atterrissage. J'ai mis la culture de la rue dans la France et son pactage, car pour pouvoir former la lune, faut que tous les quartiers se rejoignent. On chanterait presque la Marseillaise, avec Jules, avec Ayam, le bruit des copes de supporters, ça étouffe toutes les calaches. On aime la garde républicaine, quand elle chante avec Aya, on hait les gardiens de la paix. Quand ils shootent les canaques, quand ils compressent les thorax de Cédric et d'Adama, que sans les images des dashcam on ne saurait rien des causes du drame. Alors on se fout de leur morale, des humanistes à deux balles. On s'aimera jusqu'à ce que la prochaine polémique nous sépare. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits. Que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise. Et que le chef de police est sûrement un chef de famille. Et que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre qu'oublié. Un crime est un crime, de belles dramas où c'est qu'il. On va tous finir par ce qu'il, alors j'ai plus qu'une chose à dire, l'amour.
L'amour, c'est effectivement le titre de cette chanson de Médine, extraite de son album La Haine, sorti en 2024. Et on va poursuivre maintenant avec un extrait de l'article Police, le temps des colonies n'est pas fini, qui est un article de Mathieu Lopez publié dans Billets d'Afrique à l'été 2023.
Le colonialisme s'est construit par une violence extrême, racialisée, contre les peuples qu'il a dominés. Ce sont d'abord des armées sous la forme des compagnies coloniales ou de corps issus des armées régulières qui envahirent les pays. Les polices furent créées plus tard, lorsque furent formalisées les administrations coloniales. La police coloniale est d'abord marquée par une grande porosité avec la sphère militaire. Les forces de police, peu nombreuses, interviennent souvent avec des militaires. L'introduction du livre collectif « Maintenir l'ordre colonial, Afrique et Madagascar du 19e et 20e siècle » permet d'appréhender le niveau de violence qui en découle dans les colonies, mais aussi en France, contre les colonisés. Je cite « Là où les colonisés étaient en situation de s'organiser et de défier les forces de l'ordre, le massacre était une option du répertoire policier. On observe ainsi un véritable répertoire d'actions policiers qui, de décembre 1952 à Casablanca à octobre 1961 à Paris, unit le centre et la périphérie de l'Empire. Le corps qui illustre le mieux cette hybridation militaro-policière est la gendarmerie, capable de basculer des missions civiles à de véritables opérations militaires, par exemple en Algérie ou en Indochine lors des guerres de libération. La police se fond aussi parfois avec des milices de colons, lesquelles avaient d'ailleurs de facto des pouvoirs policiers. Dans les colonies de peuplement, tout au long des 19 et 20e siècles, les Européens étaient dans les faits tous dotés de pouvoirs de police, en particulier celui de se faire justice eux-mêmes à l'encontre de leur personnel indigène. La police des colonies doit aussi se penser avec le système pénal spécifique qui applique travail forcé, privation de liberté publique, internement administratif, amende collective, etc. L'ensemble de l'appareil policier et judiciaire se déploie de manière racialisée. La police a avant tout comme fonction de maintenir l'ordre colonial en appliquant un contrôle des colonisés dans une extrême violence. Mais les Blancs ne font évidemment pas l'objet du même traitement, même dans le cas où ils sont responsables de désordre. Le fait que, à l'image des troupes coloniales, les polices comprennent un grand nombre d'indigènes dans leur rang renforce encore cette discrimination. Il est impensable que des policiers non blancs puissent s'en prendre à des Européens, face auxquels ils étaient de facto sans prérogative. Ces traitements discriminatoires étaient à la fois écrits par l'ensemble des textes qu'on a nommés le Code de l'indigénat, mais surtout tacites, définis par les pratiques racistes de l'administration coloniale.
Petit à petit, le racisme contamine.
Alors du coup, je poursuis avec la lecture de l'article de Mathieu Lopez, donc, qui était issu de la revue Billets d'Afrique de survie, de Mathieu l'association Rigouf. Survie. Mathieu Lopez.
Pardon, excuse-moi.
Donc, je poursuis. À la suite des indépendances, de nombreux travaux ont montré comment l'administration violente et raciste a perduré dans la police métropolitaine. Elle s'est d'abord faite par le biais de l'idéologie, portée par des anciens administrateurs coloniaux à qui l'État a confié des postes d'organisation de l'espace et de répression des anciens colonisés dans les quartiers populaires. L'itinéraire de Pierre Belotte en est édifiant. Après avoir sévi en Indochine, en Algérie puis en Guadeloupe lors du massacre de mai 1967, il devient le premier préfet de la Seine-Saint-Denis nouvellement créé. Il y fera développer notamment la première expérience de brigade anticriminalité, la fameuse BAC qu'on connaît encore, en 1971. De la même manière, Maurice Papon, préfet de police de Paris lors du massacre du 17 octobre 1961, avait déployé les unités spécialisées dans les interrogatoires et la torture lors de son affectation comme préfet de Constantine. Bien d'autres hauts fonctionnaires ont eu des trajectoires similaires. Ils adaptent au contexte civil français la doctrine de « guerre révolutionnaire » qui a été développée en Indochine et en Algérie, qui consiste à désigner et combattre un ennemi intérieur, les Arabes musulmans et les communistes, tapis au sein de la population, à laquelle il convient d'appliquer des méthodes de contrôle et de coercition physique et psychologique, notamment par la terreur. La France recycle bon nombre de cadres policiers ou militaires ayant servi en Algérie pour diriger les services de police de la métropole. Mais ce sont aussi des personnels de base qui sont réutilisés dans la police ou plus largement dans les structures de contrôle des anciens colonisés et anciennes colonisées de l'Hexagone. On retrouve ainsi de nombreux anciens de l'Algérie comme gardien des nouveaux foyers Sonacotra. La Sonacotra, ça s'appelle maintenant ADEMA, donc c'est la Société national de construction des travailleurs. C'est des foyers pour les hommes qui arrivaient des anciennes colonies. Mmh. Au-delà de la seule circulation des personnes, une idéologie et une culture raciste se sont construites à la fois en métropole et dans les colonies. On conçoit mal par quel artifice magique le racisme aurait pu disparaître du cœur de l'État et de la police française, puisque la reconnaissance de la barbarie coloniale est toujours anecdotique, euphémisée et faite du bout des lèvres, et qu'aucune majorité politique française n'a jamais porté une quelconque volonté de combattre sérieusement le racisme dans les rangs. En la matière, le déni du racisme structurel de la police est la règle. Fondamentalement, avec d'autres structures d'État, la police remplit la fonction de maintenir l'ordre capitaliste, raciste et patriarcal de la société. La possibilité que les bénéficiaires de cet ordre sabotent volontairement cet outil relève de la science-fiction. Pour les descendants de colonisés en France, nul besoin de longues thèses d'histoire ou de sociologie pour savoir à quoi s'en tenir.
Merci pour la lecture de cet article. Et en effet, difficile de ne pas savoir à quoi s'en tenir quand on voit les différentes brigades racistes de la police de Paris qui se sont succédées au fil des ans depuis l'entre-deux-guerres et dont je vais vous parler maintenant. On démarre donc en 1923, à la suite d'une intense campagne de presse après un double meurtre commis par un Algérien, le conseiller municipal Pierre Gaudin, ancien administrateur colonial au gouvernement d'Alger, obtient la création des services dits de la rue Lecomte. Il s'agit d'un service central de contrôle administratif et politique d'Algérie en France, pardon, qui dépend de la préfecture de police de Paris et qui répond également à différents titres, notamment le service des affaires indigènes nord-africaines, ou SAINA, ou le service de surveillance et de protection des nord-africaines, SSPNA. Il vise à encadrer toute la vie des travailleurs algériens en métropole en regroupant services administratifs, sociaux et sanitaires sous le contrôle d'un service de police. Oui, même l'hôpital franco-musulman de Bobigny est sous sa responsabilité.
Incroyable.
C'est un véritable centre de services sociaux et de répression. Le contrôle et le fichage, au cœur des activités de ce service, étaient assurés par toutes les unités, mais centralisés par la brigade nord-africaine, dont je vous parle juste après. Dès qu'un indigène algérien avait affaire à un des services de la rue Lecomte, que ce soit pour la délivrance d'une carte d'identité comme pour le règlement d'une question d'assurance sociale, une fiche était établie et adressée à la brigade. Le fichier de celle-ci, riche de milliers de noms, préfigure à certains égards le fichier juif établi par la préfecture de police au début de 1941. Donc, la brigade nord-africaine, c'est la section policière de la rue Lecomte. Elle était composée d'une trentaine de membres chargés de la « surveillance » entre guillemets générale des nord-africains et ayant pour mission de renseigner le préfet de police et par son intermédiaire, le gouvernement, sur tous les mouvements politiques ou autres pouvant se produire dans la population nord-africaine. Une grande partie des membres de la brigade ont préalablement travaillé dans les colonies. D'ailleurs, le recrutement et les évolutions de carrière n'étaient pas du tout les mêmes qu'au sein du reste de la préfecture de police. Ce n'étaient pas les mêmes concours, il y avait un accès simplifié, on va dire.
Ok.
C'était pas la crème de la crème.
Relativement autonome, la brigade nord-africaine agit fréquemment en dehors du cadre légal, ne s'embarrasse pas de légalisme pour faire régner l'ordre, et importe en métropole des systèmes de médiation pénale fondés sur le code de l'indigénat, ou fait pression sur des milieux nationalistes, par exemple en dressant une liste de participants à des meetings d'associations anticoloniales et en supprimant ensuite leurs droits aux allocations chômage ou familiales. Ou bien en forçant les employeurs à licencier des personnes pour ensuite pouvoir faire des rapatriements de force. À la libération, les services de police parisiens, dévolus à la surveillance et à la répression des Français musulmans d'Algérie, sont supprimés au nom du respect de l'égalité des droits entre tous les Français résidant en métropole, mais aussi pour des faits de collaboration. En effet, la brigade nord-africaine avait fourni pas mal d'auxiliaires français de la Gestapo parisienne.
Étonnant.
Mais cette mesure ne va pas sans débat et il y a de nombreuses personnes qui réclament la création de nouveaux services de police spécialisés dans la répression de la criminalité nord-africaine. Et donc la création des brigades agression et violence, BAV, en 1953 apparaît comme une victoire pour cela. Cette fois, c'est un service de la police judiciaire, Mais malgré tout, c'est un service qui accepte des tâches qui ont peu à voir avec celles des autres brigades judiciaires. C'est ainsi qu'au nom de la prévention de délits de droit commun et de la nécessité de contenir l'action de mouvements politiques illégaux, elles sont engagées dans la surveillance et le contrôle d'une population définie par des critères ethniques et par une situation coloniale. Les comptes rendus de mission, les consignes de la hiérarchie ou les témoignages ne laissent guère de doute sur le fait que la brigade, comme d'autres services de police, ouvre systématiquement le feu sur les Algériens qui semblent les menacer ou qui tentent d'échapper à une interpellation. Ces actes sont couverts par le préfet de police qui régulièrement dresse des bilans de pertes ennemies, comme en temps de guerre finalement. Au moment de l'arrivée du préfet Maurice Papon et au nom de la sauvegarde de leur identité professionnelle, les brigades agressions et violences refusent de franchir un pas de plus et de devenir un service de police au profit exclusif de la fameuse guerre contre-révolutionnaire. Ces missions-là seront donc assumées par une police supplétive avec laquelle elles collaborent cependant étroitement tout en leur laissant les bases d'œuvre. Il s'agit de la force de police auxiliaire, FPA, qui est créée fin 59 par Maurice Papon. Maurice Papon est donc à ce moment-là préfet de police, mais c'est quand même un ancien collaborateur sous l'occupation, ancien secrétaire général du protectorat au Maroc, et qui exporte donc ses méthodes de guerre contre-révolutionnaire qu'il a développées lorsqu'il était préfet régional en Algérie. La FPA participe à la lutte contre les FLN dans la capitale et dans sa banlieue. Elle est majoritairement composée de recrues issues de bidonvilles d'Alger ayant souvent un lourd contentieux avec le FLN et est commandée par des officiers français, de préférence pieds noirs, pour simplifier les choses. Les méthodes de la FPA, plus ou moins violentes, au-delà de la légalité, incluent bien sûr la torture et sont couvertes par la hiérarchie. Je termine mon propos en recitant rapidement la BAC, qui a déjà été évoquée dans l'article tout à l'heure, créée en 71 en Seine-Saint-Denis par un des grands maîtres de la répression raciste en France, ayant fait ses armes sans surprise dans les colonies, la répression en Indochine, la guerre d'Algérie, les avortements forcés et la répression meurtrière de manifestations en Guadeloupe.
Alors, on va s'écouter un morceau de rap donc, qui évoque pour la première fois le massacre du 17 octobre 1961. C'est un morceau qui date de 98 et qui est donc de la rumeur. On m'a demandé d'oublier.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées balafrées. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation à nous expédier en charbon. Des années après, l'industrie te perfore les poumons, s'ils n'ont pas déjà tâté les balles au front, en première ligne, chair à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chapes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire, et le prix des soulèvements, les trop pleins, de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain, de pogroms en plein Paris, de rafles à la benne, et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la Seine. On m'a demandé d'oublier.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous.
Perce et laisse des trous.
On m'a demandé d'oublier les traînements dans la boue, les doigts pointés d'une seule voix, les réquisitoires incendiaires, les mises en scène de fièvre, d'accusation, la salive aux lèvres, puis les vomis sur de l'opinion. On m'a demandé d'oublier ces complets de boucs émissaires taillés sur mesure, les trains des froids, des sèches, nous voilà jetés en pâture, à l'hystérie d'un troupeau bercé trop près du mur. On m'a demandé d'oublier la crasse de cervelle au détour de plus d'un de leurs discours, où le bruit et l'odeur émanent en vapeur de nos races moribondes, où Maria ne peut cueillir toute la misère du monde, quand sa main droite affame le sud et l'assiste à creuser sa propre tombe. On m'a demandé d'oublier les prises télévisées, les charters et autres cercueils volants convoyés, les gâches filés aux idées du parti d'un borgne en sueur, les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs, les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
L'infamie perce et laisse des trous.
M'a demandé d'oublier les chasses ouvertes aux nègres et bougnoules offertes aux treillis verts kaki de peur à cracher le feu. Les appels à la mort lancés, finis-le, allez, achève-le. On m'a demandé d'oublier les fracas de ces voltigeurs et ces balles policières en plein cœur. Puis le sursis accordé à la volaille criminelle en habit. Ailleurs, mes frères écopent de peines alourdies, et oui, les trafics crépusculaires ne profitent jamais aux petits. Un orteil dans l'extrême et c'est toute la jambe qui suit. Morfle si tu viens t'y mettre, il pleut à verse des lambeaux d'infamie mis sur nos êtres. On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la fraie. On m'a demandé d'oublier.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous.
Perce et laisse des trous.
On est toujours sur Campus Grenoble et on poursuit donc notre émission sur le racisme.
Souvent quand on parle de racisme, on a tendance à parler et à pointer les comportements individuels, c'est ceux-là qui sont mis en avant. Et pourtant, bah, depuis le début de cette émission, on a largement pointé que le racisme auquel il est vraiment primordial de s'attaquer, c'est le racisme qui est dit structurel ou d'État, qui désigne en fait les appareils d'État comme la police dont on vient de parler, mais aussi les discours politiques et médiatiques et l'ensemble des politiques publiques discriminatoires et des pratiques institutionnelles. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attaquer au racisme individuel, mais en tout cas, quand même, ce racisme d'État, il est très prégnant dans notre société. Et là, on avait envie de citer un peu des exemples qui montrent, pour l'État français, un peu comment, en fait, une vie n'est pas égale à une autre, y compris après la période coloniale, quoi. Donc le premier exemple qu'on va citer, c'est celui des enfants de la Creuse ou enfants volés de la Réunion. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? C'est qu'en fait, au milieu des années 50, la population, elle augmentait beaucoup dans l'île de la Réunion. Et le gouvernement français, il a pris peur parce qu'une population nombreuse et jeune, c'est un terreau de contestation important. Et il avait peur qu'il y ait des revendications autonomistes qui étaient déjà présentes sur l'île et qu'ils avaient peur qu'elles prennent un peu trop d'ampleur. Donc à partir des années 60... Il y a un programme de déportation d'enfants réunionnais vers la France qui va être mis en place et qui va permettre, au passage, de repeupler certains départements français, notamment la Creuse, qui a besoin de main-d'œuvre à ce moment-là. Donc plus de 2000 enfants vont être transplantés en une vingtaine d'années. Et on peut dire que l'accueil qui leur a été réservé en France est très variable. On a parlé pour certains de mise en esclavage, de main-d'œuvre gratuite et humiliable. D'autres ont été adoptés par des familles qui se voulaient aimantes, mais qui n'ont pas forcément eu le courage de mettre des mots sur leur histoire. Et on a donc des témoignages d'enfants qui ont mis longtemps à comprendre pourquoi ils étaient noirs avec des parents blancs qui leur expliquaient rien du tout. Donc en tout cas, pour tous et toutes, ça a été une déchirure. Des familles ont été détruites et des vies ont été piétinées sans considération aucune. Si certains enfants étaient orphelins quand ils ont été transplantés, d'autres avaient des parents. Pour certains, des parents illettrés à qui on a fait signer des documents qui attestaient qu'ils abandonnaient leurs enfants, et à qui on a pu faire croire que les enfants partaient étudier en France, qu'ils pourraient revenir aux vacances. Mais en fait, il s'agissait bien d'un aller simple, et c'est que 30 à 40 ans plus tard que le scandale, une fois qu'il a eu éclaté, que certains ont pu retrouver la trace de leur famille. Donc cette migration réunionnaise, elle a bien été accomplie par et pour l'État français, avec la complicité de services tels que la DAS, et le BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations, intéressant les départements d'outre-mer. Ça n'a rien d'un dérapage. Cette migration, elle a été produite par une institution républicaine, sous la conduite du député Michel Debré, qui était alors député de La Réunion. Alors moi, j'ai une petite question pour vous, après avoir entendu parler du coup de ces enfants de la Creuse. Là, d'après vous, quelles sont les réparations qu'ils ont pu obtenir, ces plus de 2000 enfants?
Aucune idée. Aucune.
Ouais. Il n'y en a pas eu, non?
Ouais, bah déjà ils ont mis
statue à l'aéroport à La Réunion,
une stèle.
Ouais. Ils ont mis très longtemps à obtenir ce type de réparations qui sont des réparations importantes, hein, les réparations mémorielles et donc et symboliques. Donc ça a mis longtemps. Et puis après une longue bataille, ils ont obtenu un billet pour retourner à La Réunion, un billet d'avion. Des frais d'hébergement sur place pour les 3 premiers jours.
Trop bien. Ouais. Merci le gouvernement.
Et une aide psychologique. Voilà. Mais voilà, il y a encore des batailles en cours pour essayer d'obtenir des réparations un peu plus conséquentes. Voilà. Et l'autre exemple dont je voulais vous parler, mais j'ai perdu ma feuille. Ah voilà, je l'ai. Pardon, excusez-moi. Un autre scandale qui montre encore une fois comment ce racisme il est bien structurel, c'est le scandale du chlordécone. Alors on en a peut-être un peu plus entendu parler. Donc le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies de la Martinique et de la Guadeloupe de 1972 à 1993 pour lutter contre un insecte qu'on appelle le charançon du bananier. Donc ce chlordécone, c'est une substance qui est toxique pour l'homme. Et dès 1979, l'Organisation mondiale de la santé la soupçonnait d'être cancérigène, soupçons qui sont aujourd'hui largement avérés. Le chlordécone, en plus, il n'est pas biodégradable, donc ça entraîne des pollutions et des intoxications. Donc c'est pour ça qu'on l'a interdit dans de nombreux pays. Par exemple, aux États-Unis, c'est dès 1976 qu'il interdit. En France, ça vient très tardivement, à partir de 1990, mais que pour la métropole. Parce qu'aux Antilles, il va continuer d'être utilisé jusqu'en 1993. Et donc, on considère aujourd'hui que cette molécule, elle a contaminé plus de 90% de la population guadeloupéenne et martiniquaise, ce qui représente un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés du monde. Donc, plus de 30 ans après l'interdiction du chlordécone, le combat pour que la justice soit rendue, lui, il n'est toujours pas achevé. Cette année, la Cour d'appel de Paris a reconnu la faute de l'État pour plusieurs raisons, donc les autorisations provisoires de vente, puis l'homologation de produits contenant du chlordécone que l'État a délivré alors que la prudence aurait dû être de rigueur, parce que, comme je le disais avant, l'OMS avait déjà alerté. Ils sont attaqués aussi pour la non-prise en charge du traitement des stocks après son interdiction définitive, et aussi pour sa réponse qui est vraiment tardive et insuffisante face aux pollutions et aux troubles à la santé. Par exemple, c'est seulement en 2021 que le cancer de la prostate, à la suite d'une surexposition au chlordécone, a été reconnu comme maladie professionnelle. Contrairement aux hommes, les femmes victimes du chlordécone continuent de se battre et bénéficient toujours pas de reconnaissance comme maladie professionnelle.
Parce qu'elles n'ont pas de prostate.
Tout à fait. Oui. Voilà.
Il y a peut-être d'autres maladies.
Mais pourtant, elles aussi, elles ont été exposées. Et du coup, elles ont notamment été victimes de cancer, beaucoup en présente. Et le pesticide a aussi été identifié comme perturbateur endocrinien et cause de lymphome. Donc, cancer, pollution des sols, les dégâts du chlordécone vont perdurer entre 4000 et 11000 ans environ, selon les estimations. Ce qui fait dire à des militantes du CoADEP, c'est un des collectifs ouvriers agricoles empoisonnés, qu'ils ont l'impression que la vie des personnes noires est moins importante que celle des personnes blanches. Voilà, donc pour résumer, il y a très peu de victimes qui sont indemnisées à ce jour. Celles qui l'ont été ont reçu des sommes assez faibles par rapport aux préjudices subis. Et si l'État, après plus de 20 ans de lutte, il a enfin reconnu son rôle, les firmes qui, elles, ont commercialisé ces produits, n'ont pas encore été sollicitées ou embêtées pour les réparations. Elles n'ont pas encore déboursé quoi que ce soit.
En vérité, yo poisonné.
Yo poisonné, maman et tout est nous.
En vérité, yo poisonné.
C'est corps des cornes qui empoisonnent nous.
En vérité, yo poisonné.
C'est corps des cornes qui empoisonnent nous.
Et maintenant, pardon, excusez-moi, c'est moi qui devais dire qu'on va écouter notre grande spécialiste des déchets et sa chronique Portrait d'Ardure, aujourd'hui avec un personnage qui est n'est autre que Charles Pasqua.
Donc Charles Pasqua est né à Grasse en 1927 et rentre chez Ricard en 1952, où il devient en 10 ans le numéro 2 du groupe en charge des exportations. Une note des RG de l'époque indique que M. Pasqua, qui dispose d'un chauffeur et de garde du corps, mènerait un train de vie qui ne justifie pas ses ressources personnelles. Il bâtit ensuite sa carrière politique dans les Hauts-de-Seine, où il devient député, sénateur et président du Conseil général. Il exerce une autorité forte, c'est le parrain du département. Entré en 1947 dans le parti gaulliste, il participe en 1959 avec Jacques Faucard à la création du service d'action civique, le SAC, la milice privée et politique de Gaulle, impliquée dans les meurtres de militants de gauche notamment. Proche de Chirac, il participe à la fondation du RPR en 1976 et sera ministre de l'Intérieur sous les gouvernements Chirac et Balladur. Pasqua est le pilier central de la politique france-africaine de Chirac. Dès 1970, il dispute à Faucard une partie des réseaux france-africains. Il les développera en accentuant les passerelles avec la mafia corse et le Proche-Orient. Casinos, machines à sous, pétrole, armement. Il est impliqué dans de nombreuses affaires, comme la fourniture d'armes à des régimes comme le Soudan ou le Zaïre de Mobutu, l'approvisionnement lors de la guerre civile en Angola, le développement du monopole corse sur le secteur très juteux des jeux, des paris et des casinos en Afrique. Charles Pasqua est mis en cause dans plusieurs affaires politico-financières dans les années 2000.
Incroyable. Inattendu. Hein.
Seule l'affaire de la Sofrimi, donc une société d'exportation d'armes qui est administrée par le ministère de l'Intérieur, donc c'est une affaire de détournement de fonds, aboutit à une condamnation de prison avec sursis. Donc Pasqua accède à une visibilité nationale en tant que ministre de l'Intérieur lors des deux premières cohabitations, qui ont lieu de 86 à 88, puis de 93 à 95. Il y adopte une politique de fermeté en matière d'immigration, de délinquance et de terrorisme, marquée par un durcissement des conditions de séjour et un renforcement des pouvoirs policiers. Il est ministre de l'Intérieur pendant les manifestations étudiantes contre la loi Devaquet, qui voit la mort de Malek Houssekine le 5 décembre 86. C'est en 86 également, en septembre, qu'est votée la première loi, dite Pasqua, rendant plus difficile le séjour des étrangers en France, en accroissant notamment les formalités et les conditions à remplir pour rentrer en France.
Pasqua, n'aie pas les papiers, mon ami, Pasqua, n'aie pas les papiers. Pasqua, n'aie pas les papiers, mon ami, Pasqua, n'aie pas les papiers. Pasqua, n'aie pas les papiers, mon ami, Pasqua, n'aie pas les papiers.
Cette mesure intervient à l'époque sous l'influence croissante du Front National, avec l'idée de plus en plus partagée à droite qu'il faudra l'appui de ses électeurs pour renverser la gauche. Ainsi, dans un entretien accordé à Valeurs Actuelles entre les deux tours de l'élection présidentielle de 88, lors de laquelle Jean-Marie Le Pen a fait plus de 14% au premier tour, Pasqua préconise une alliance avec l'extrême droite, déclarant que le Front National se réclame des mêmes préoccupations, des mêmes valeurs que la majorité. L'immigration devient un thème de campagne pour la droite, et le futur ministre de l'Intérieur pour mener une politique très plus répressive et tout trouver en la personne de Charles Pasqua. Le tournant sécuritaire à l'égard de l'immigration est pris. L'objectif affiché est clair. Immigration zéro. En 93, est votée la réforme du Code de la nationalité française, mettant fin à l'automaticité de l'obtention de la nationalité française d'enfants nés en France de parents étrangers. En 95, il introduit l'obligation de visa pour les Comoriens venant de Mayotte, les visas dits Balladur. Avec Pasqua, le virage est également tout sécuritaire. Il disait « La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État ». Politiquement, dès les années 90, Charles Pasqua se situe dans l'aile souverainiste du RPR et se rapproche peu à peu de Philippe Séguin, le père de l'actuel ministre, préfète de l'Isère, et de Devilliers. Son soutien à Édouard Balladur lors de l'élection présidentielle de 95 lui vaut d'être écarté du premier cercle des Chiraciens. Et ça marquera un coup d'arrêt de son ascension politique. En 99, il fonde donc avec Devilliers le Rassemblement pour la France, un parti souverainiste. Il meurt en 2015, sans avoir fait de prison.
Ouais, c'est hallucinant parce que je ne sais plus combien on avait relevé d'affaires et de justice dans lesquelles il était. Mais par contre, vous avez entendu quand même qu'hier, il y a eu un autre élu des Hauts-de-Seine
qui a lui a été condamné et qui a priori va faire de la prison. Mmh. Ouais, tout le monde a entendu de qui s'agit-il.
Un certain Nicolas S, par exemple.
Nicolas S, qui sera le premier président français à faire de la prison.
Et pour conclure, après le passage de Pasqua au ministère de l'Intérieur, les lois visant à réguler l'immigration, des lois toujours plus restrictives, vont se multiplier. On verra cela dans un prochain volet de la matinale décoloniale sur le racisme. Il y aura notamment la loi Debré en 97 qui a suscité en réaction un morceau de rap intitulé 11 minutes 30 contre les lois racistes au profit du mouvement de l'immigration et des banlieues, association luttant alors contre la double peine et les crimes policiers, dont on écoute un extrait.
Loi de fer, loi Jox, loi Pasqua ou Debré, une seule logique.
La chasse à l'immigré, et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines.
Un État raciste ne peut que créer des lois racistes.
Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête.
Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles.
Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France.
Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays.
Qu'ils soient français ou immigrés.
Voilà, donc on fera un troisième volet sur le racisme, dans lequel on parlera de politique migratoire, de problèmes d'accès aux droits, de surenchère politique. Ce sera pour une autre fois. Et pour l'instant, on fait un petit agenda.
Alors, je commence par notre agenda, par un événement qui a eu lieu hier, le 24 septembre, place Félix Poula. Mais on a envie d'en parler. Avant-hier, pardon, bah oui, tout à fait, nous sommes le 26. C'était donc le rassemblement en soutien avec la lutte du peuple kanak à l'occasion de la commémoration de la prise de possession de l'État colonial français, il y a du coup maintenant 172 ans, de la Kanaky Nouvelle-Calédonie.
Et ce soir, sinon, au Centre social de Roussillon, il y a une conférence collective sur la France-Afrique.
Par l'association Survie.
Tout à fait.
Dont certains membres de cette émission.
Jusqu'au 30 septembre, à la Maison de l'International, il y a une exposition sur les os humains et notamment sur celui qui a été à Grenoble en 1925 au parc Paul Mistral. Ouais.
Ensuite, on continue. Le 17 octobre à 18h, il y aura, comme chaque année, place Edmond Arnault dans le quartier Trècloître, l'événement Une fleur dans l'Isère. Donc, à la mémoire des manifestants algériens, qu'on a évoqué tout à l'heure avec le préfet Papon, qui ont été massacrés donc, le 17 octobre 1961 à Paris.
Et enfin, on vous en parlera peut-être dans la prochaine émission, mais réservez tout de suite la date. Le 7 novembre à 19h30, on va faire une soirée sur la Côte d'Ivoire, à l'occasion des élections présidentielles qui auront lieu le 25 octobre. Ce sera à la Correspondance, avenue Marcelin Berthelot, avec l'association Survie. Et ben, c'est la fin de notre émission, je crois.
Ouais. Ouais.
Au revoir.
Salut.
À la prochaine.
Au revoir.
C'était la matinale décoloniale.
Retrouvez-nous en podcast
sur campusgrenoble.org.